Tout à fait, Mathilde, 2 mois avec Vittorio De Sica, c'est le nom de la nouvelle rétrospective de l'Institut Lumière qui fait suite donc à celle consacrée à Hitchcock sur les derniers mois, et ça commence ce soir d'ailleurs, 14 février, la soirée d'ouverture est en cours et ça courra jusqu'au 23 avril, un beau début de printemps donc qui s'annonce sous les auspices du cinéma italien des années 60, 70, 80. Et pour parler un petit peu plus de ce réalisateur qu'était Vittorio De Sica et de l'univers cinématographique dans lequel il a évolué, j'ai rencontré Esther Allais, à terre en études cinématographiques à l'ENS de Lyon, qui a soutenu une thèse sur Antonio Pietrangeli et nous a donc renseigné un petit peu plus sur le néoréalisme italien, et revient d'abord avec nous sur la place occupée par Vittorio De Sica dans l'histoire du cinéma italien.
Eh ben, déjà, on peut dire que c'est une grande place, même une très grande place, parce que il a traversé l'histoire du cinéma italien en tant qu'acteur de théâtre, de cinéma et comme réalisateur. Donc, si vous voulez, entre les années, la fin des années 30 et la fin des années, des années 70, De Sica est une figure omniprésente, peut-être pas, mais en tout cas, fait partie du paysage italien pendant presque 40 ans, quoi. Ce que l'historiographie peut-être a davantage retenu de De Sica, c'est son rôle, disons, la façon dont il a participé à l'élaboration d'une esthétique néoréaliste avec son scénariste Cesare Zavattini. Et à ce titre, peut-être que son film le plus emblématique, c'est Le voleur de bicyclette et Umberto D.
Marie!
Che c'è? Che è successo?
Ma dimmi se non so disgraziato.
Che c'è, Antonio?
C'è il posto e non lo posso prendere.
Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene.
Al ladro!
Ascolta bene, o la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito?
A blu! Ma che fai, via via?
Voilà, on entendait quelques extraits pour une bande-annonce du Voleur de bicyclette, sans doute le film le plus connu de De Sica, et qui est donc emblématique du néoréalisme italien. Mais alors, néoréalisme italien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, notre invité nous en donne quelques explications.
Alors, le néoréalisme, c'est, comme son nom l'indique, l'idée d'un retour au réel, néoréalisme, ou un réalisme renouvelé, qui en fait se distingue de l'idée d'une simple reproduction du réel. Hein. Le néoréalisme, c'est pas simplement, un cinéma très réaliste, mais c'est un cinéma qui recherche à travers un réalisme renouvelé une forme peut-être même de poésie, qui préfigure d'ailleurs la modernité cinématographique. Alors chronologiquement, c'est le cinéma d'après-guerre, quoi. À partir, on pourrait dire que Les Amants diaboliques de Visconti en 43, c'est la préfiguration ou peut-être le premier jalon, un premier jalon néoréaliste. Et puis surtout avec Rossellini, Rome ville ouverte en 45. Et puis en 48, Le voleur de bicyclette, et encore en 52, Umberto D. Ensuite, pour dire quand s'arrête le néoréalisme, là la question est un peu plus délicate, parce que si c'est facile de faire démarrer le néoréalisme à la chute du fascisme et à la fin de la Deuxième Guerre, la fin de la saison néoréalisme, elle est un petit peu plus difficile à déterminer. Certains disent que dès 53, et qu'en fait, en gros, après Umberto D, il n'y a plus vraiment... l'innovation est déjà dépassée, si vous voulez, ou la nouveauté ne l'est déjà plus. D'autres disent que jusqu'à la fin des années 50, on peut encore parler de néoréalisme. Voilà. comment est-ce qu'il participe au néoréalisme? Peut-être d'abord en tant que, par ses thèmes, hein, ses thématiques, c'est-à-dire s'intéresser à des univers plutôt populaires, et à s'attaquer à des questions d'actualité qui sont la question du logement, par exemple, avec Umberto D, de la misère, du chômage, avec Vittorio De Sica. Voilà, donc il y a cette dimension un petit peu sociale, cet engagement social et politique qui est présent chez De Sica comme dans beaucoup de films néoréalistes. Mais je dirais aussi que la nouveauté du néoréalisme, et ce que montrent très bien ces deux films, c'est aussi la construction, la structure des films qui n'est plus aussi linéaire, où l'enchaînement causal des séquences est fragilisé par ce qui annonce déjà, en fait, une forme de contemplation qui sera d'ailleurs le trait essentiel de la modernité cinématographique. Et ça, c'est ce que décrit très bien Bazin, hein, André Bazin, dans ses textes sur De Sica. Et voilà, ça, c'est vraiment Bazin qui a identifié ça, hein, ce rôle qui était non seulement dans les thématiques et dans un traitement néoréaliste, disons, avec beaucoup de scènes en extérieur, des acteurs non professionnels qui se mêlent à des acteurs professionnels. Mais il y a aussi plus fondamentalement, au niveau de la construction du film, quelque chose qui dépasse, hein, voilà, qu'annonce en gros le cinéma moderne.
L'ellipse est un processus de récit logique et donc abstrait. Elle suppose l'analyse et le choix. Elle organise les faits selon le sens dramatique auquel ils doivent se soumettre. De Sica et Zavattini cherchent au contraire à diviser l'événement en événements plus petits, et ceci en événements plus petits encore, jusqu'à la limite de notre sensibilité à la durée. Ainsi, l'unité événement dans un film classique serait le lever de la bonne. Deux ou trois plans brefs suffiraient à le signifier. À cette unité de récit, De Sica substitue une suite d'événements plus petits. Le fait de moudre le café, nous le voyons, se diviser à son tour en une série de moments autonomes, comme par exemple la fermeture de la porte du bout du pied tendu. La caméra suivant, en se rapprochant, le mouvement de la jambe, c'est le tâtonnement des orteils contre le bois qui devient finalement l'objet de l'image. Ai-je déjà dit ici que le rêve de Zavattini est de faire un film continu de 90 minutes de la vie d'un homme à qui il n'arriverait rien? C'est cela même pour lui le néoréalisme. Mais ne nous trompons plus sur le sens et la portée, ici, de la notion de réalisme. Il s'agit sans doute pour De Sica et Zavattini de faire du cinéma l'asymptote de la réalité. Mais pour qu'à la limite ce soit la vie elle-même qui se mue en spectacle, pour qu'elle nous soit enfin, dans ce pur miroir, donnée à voir comme poésie. Telle qu'en elle-même, enfin, le cinéma la change.
Et Mathilde, tu lisais ici un extrait donc d'un texte d'André Bazin sur Umberto D, film donc de Vittorio De Sica. Et la rétrospective que lui consacre l'Institut Lumière, on l'entendait en introduction, n'est pas seulement consacrée à De Sica réalisateur, mais également à De Sica acteur. Notre invité nous en dit quelques mots.
Comme le montre la rétrospective, il a continué à faire l'acteur, même après avoir eu cette reconnaissance critique internationale en tant que réalisateur. Il n'a jamais cessé de jouer dans des films. En fait, De Sica, c'est presque un personnage type qui joue un homme très courtois, très poli, aux manières de parler un petit peu surannées. Et qui a quelque chose de très attachant malgré parfois sa lâcheté. Voilà, et je dirais qu'il a surtout, en tant qu'acteur, il a surtout marqué le cinéma comique, et à travers cette espèce de personnage type, hein, dont l'incarnation peut-être la plus emblématique est celle qui joue dans le film de Comencini, Pain, Amour et Fantaisie.
Voilà la rétrospective donc 2 mois avec Vittorio De Sica, qui est à retrouver à l'Institut Lumière jusqu'au mois d'avril. On vous conseille bien évidemment de vous y rendre.